été avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient et ce matin, nous lançons le débat sur la décision de la Cour constitutionnelle congolaise d'autoriser le président Joseph Kabila à se maintenir à la tête de l'État au-delà de son mandat, à condition évidemment que l'élection présidentielle qui est censée avoir lieu avant la fin de l'année ne soit pas organisée. La Cour veut ainsi éviter un vide à la tête du pays. Joseph Kabila va donc pouvoir assurer la continuité de l'État pour une durée d'ailleurs que les juges n'ont pas précisée. Alors faut-il y voir, comme le dénonce l'opposition, un moyen pour le président sortant de s'éterniser au pouvoir, d'autant que la Constitution interdit à Joseph Kabila de briguer un nouveau mandat. Vous êtes des centaines et des centaines à souhaiter prendre la parole ce matin sur l'antenne d'RFI. Ce sera le cas, ne vous inquiétez pas, dans une trentaine de minutes pour le débat du jour. 33 9 693 693 70. Les réseaux sociaux, vous continuez évidemment à poster vos messages, vos réactions sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, les questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. On va commencer avec une question concernant la loi travail en France qui divise notamment la gauche. Ali, vous êtes à Niamey, au Niger. Bonjour Ali.
Bonjour Juan Gomez, Ali Dodo depuis Niamey.
Ali Dodo, très bien, ravi de vous avoir à l'antenne, on vous écoute.
Alors, le mardi passé à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Manuel Valls avait annoncé son intention d'utiliser le 49.3 contre la loi travail. Cette décision ne va-t-elle pas accentuer la tension au sein de la gauche déjà divisée? Et quelles sont les conséquences pour l'unité du Parti socialiste français?
Ouais, Manuel Valls qui a dégainé le 49.3, qui est une arme constitutionnelle qui permet d'adopter une loi sans passer par le vote. Bonjour Florent Guignard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes chef du service politique d'RFI. Ali a raison de se poser cette question. Est-ce que ce passage en force de Manuel Valls ne va pas fissurer encore un peu plus la gauche, la majorité parlementaire?
Oui, vous avez raison, Juan, de dire encore un peu plus parce que la division de la gauche, on peut dire quand même que c'est la marque de fabrique finalement de ce quinquennat Hollande, une espèce de crise permanente au sein de la majorité. On va faire un petit rappel rapide. Ça a commencé en fait à la rentrée 2012, à l'automne 2012, au moment de la ratification du traité européen de stabilité budgétaire. François Hollande s'était engagé pendant la campagne à le renégocier. Il avait été très martial sur cette question. Et puis finalement, il n'a rien fait, il ne s'est rien passé. Une partie de la gauche du Parti socialiste et de la gauche lui en a beaucoup voulu à partir de ce moment-là. Après, il y a eu l'affaire du CICE, le pacte de responsabilité, toutes ces aides aux entreprises, cette politique économique qui n'avait pas été débattue pendant la campagne présidentielle. Une absence de débat, de clarté que paie aujourd'hui encore François Hollande. On va même pas parler de la crise de la déchéance de la nationalité. Oui. On en a très longuement parlé ces derniers mois. Ça a mis le feu partout à gauche, y compris chez les amis de François Hollande. Voilà. Au bout de 4 ans, on arrive, au bout de 4 ans de quinquennat Hollande, on arrive à une espèce de tableau de deux gauches irréconciliables. Comme le disent à la fois Jean-Luc Mélenchon et Manuel Valls, sur les deux bords de l'échiquier politique de la gauche. Pour une fois, ils sont d'accord sur le constat, sur le diagnostic. La gauche de la gauche qui se dit fidèle aux vraies valeurs de gauche. Et puis, cette gauche social-démocrate incarnée par François Hollande, Manuel Valls, qui accuse au contraire cette aile gauche et bien d'être conservatrice.
Ouais, mais enfin, on voit bien que les frondeurs au sein du Parti socialiste ont voulu mettre en place une motion de censure pour essayer de renverser le gouvernement. On a l'impression que la fracture est profonde aujourd'hui.
Ah, effectivement. D'ailleurs, il y a eu 23 députés socialistes exactement qui ont tenté hier de déposer cette motion de censure de gauche, puisqu'il y aura cet après-midi à l'Assemblée nationale une motion de censure de droite. Alors, ces frondeurs ne vont pas franchir le pas, ils ne vont pas aller voter avec la droite. Et hier, pourquoi la motion de gauche a échoué? Essentiellement parce que les amis de Martine Aubry ont refusé de s'y associer. Vous savez, Martine Aubry, elle est sur une ligne critique de la politique de Manuel Valls et de François Hollande, mais elle est aussi légaliste et elle a un souci, c'est l'unité du Parti socialiste. Nous ne sommes pas dans une logique de scission, disait d'ailleurs un de ses proches hier, François Lamy, scission, Ce mot, il est important parce qu'on risque de l'entendre de plus en plus jusqu'à la présidentielle et même après, en cas notamment de défaite de François Hollande, si la question se pose. Avant la présidentielle, il va y avoir peut-être une primaire ou peut-être des candidatures dissidentes. Arnaud Montebourg y réfléchit, par exemple. Et une gauche divisée, on le sait, c'est la garantie absolue de la défaite à la présidentielle. Et puis les conséquences aussi après, parce qu'en cas de défaite, eh bien chacun va demander des comptes. Les réformateurs vont accuser l'aile gauche d'avoir provoqué la division permanente pendant 4 ans. Et de l'autre côté, les autres vont accuser les réformateurs, les sociaux-démocrates d'avoir trahi les engagements, les promesses de campagne. Il y a un risque de scission qui est clairement posé, qui est clairement dans toutes les têtes. Je finis très rapidement.
Je regarde la pendule, mais ça, je ne vous mets pas la pression.
Il y a une tribune dans Le Monde aujourd'hui, très intéressante, de Gérard Grimbert, qui est l'un des historiens spécialistes du Parti Socialiste. Et ce qu'il explique, finalement, c'est que cette image qui est renvoyée à l'opinion depuis 4 ans, cette image de crise permanente au sein de la majorité, d'ailleurs, il n'y a plus de majorité là, puisqu'il a fallu utiliser le 49-3, eh bien, qu'est-ce que ça renvoie comme message aux électeurs ? Eh bien, c'est que les socialistes ne sont plus aujourd'hui un parti de gouvernement. C'est le risque que ça s'inscrive dans les têtes durablement, que le Parti Socialiste perde les prochaines élections et qu'il disparaisse progressivement ou qu'il se divise, une scission entre les réformateurs d'un côté, la ligne social-démocrate incarnée par Valls Hollande, et puis de l'autre, ceux qui resteraient fidèles à ses idéaux, comme ils le disent d'ailleurs. Il y a un lapsus révélateur de Christian Paul ce matin. Il était invité.
Christian Paul, le patron des frondeurs.
Voilà, le chef de file des frondeurs, ouais. même s'ils n'ont personne pour incarner l'alternative aussi. C'est un de leurs problèmes. Il a dit, pour expliquer pourquoi il ne voterait pas cet après-midi la motion de censure déposée par la droite, il a dit « Je m'oppose au retour de la gauche au pouvoir ». Il voulait évidemment dire « Je m'oppose au retour de la droite ». C'est un lapsus révélateur que n'ont pas manqué de relever ses adversaires.
En tout cas, le front de gauche, lui, a appelé à voter la motion de censure de la droite. On suivra ça, évidemment, avec vous et vos équipes du service politique d'RFI tout au long de l'après-midi. Merci beaucoup, Florent Guignard. Il est 10h17, ici, à Paris. Ce sont vos questions à la rédaction. Nous accueillons Oumar. Bonjour.
Bonjour, Juan Gomez, et bienvenue à Maryland, dans le nord-est des États-Unis.
Ah, Maryland, dans le Maryland, il est 4h17 du matin. Dans quelle ville êtes-vous exactement ?
Je suis sur le stream.
Ah, très bien. On vous écoute, vous avez des questions sur l'Arabie Saoudite.
Okay. Le ministre saoudien du pétrole, Ali Naim, a été limogé par le décret royal la semaine dernière.
Oui.
Quelle est la raison de son limogeage ? Que va-t-il faire maintenant ? Et pourquoi renommer le ministère du pétrole ? Le nouveau ministre aura-t-il des fonctions différentes du précédent ?
Alors, effectivement, pourquoi renommer le ministère du pétrole ? Puisque le successeur se retrouve à la tête d'un super ministère. On va en parler avec Nicolas Falaise du service international des RFI. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Ça faisait plus de 20 ans que Al-Naimi occupait le fauteuil de ministre du pétrole, un poste, disons-le, hautement stratégique en Arabie Saoudite. Pourquoi ce limogeage ?
Oui, ce n'est pas rien, un ministre du pétrole dans un pays qui doit sa richesse et sa puissance au pétrole, mais aussi qui peut peser sur les cours mondiaux du brut de par son importance en tant que producteur. Son limogeage intervient alors qu'une nouvelle équipe est en place au pouvoir depuis un peu plus d'un an en Arabie Saoudite et alors que le pays prend une série de mesures pour essayer de limiter sa dépendance au pouvoir. Alors la nouvelle équipe...
Au pétrole. Dépendance au pétrole. Il y a peut-être un lapsus là aussi.
Un autre lapsus. La nouvelle équipe, c'est celle mise en place par le roi Salman qui est arrivé sur le trône en janvier de l'année dernière et qui a placé ses proches autour de lui, et notamment son fils, l'un de ses fils, Mohamed Ben Salman, qu'on surnomme parfois MBS, un trentenaire qui est à la fois vice-prince héritier, ministre de la Défense, et qui a aussi la haute main sur l'économie du pays. Alors, c'est pour envisager l'avenir économique du royaume que cette nouvelle équipe dirigeante vient d'annoncer un plan qui s'appelle Vision à l'horizon 2030, avec deux premières annonces, introduire en bourse une partie d'Aramco, le géant pétrolier saoudien, et puis créer un fonds souverain qui sera le plus grand du monde, 2000 milliards de dollars. C'est dans ce contexte à la fois de changement de pouvoir et de révision de la politique économique du royaume que les dirigeants ont choisi de vous laisser partir, ou de voir partir le ministre du pétrole Ali Al-Naimi. Alors, y avait-il des divergences entre l'équipe dirigeante saoudienne et ce ministre du pétrole. C'est l'une des explications. Hein. L'Arabie saoudite, on le sait, depuis des mois, maintient les prix mondiaux du pétrole extrêmement bas, ce qui pèse sur les finances du royaume, mais aussi sur les finances des autres pays producteurs. Et c'est peut-être ce choix de maintien des prix très bas qui a pu être un sujet de divergence et déboucher sur le départ de ce tout-puissant ministre du pétrole.
Alors Oumar, dans le Maryland, nous demandait ce qu'allait devenir l'ancien ministre du pétrole. Bon, disons-le clairement, il est plutôt jeune, il a 81 ans, je pense qu'il va prendre sa retraite.
Hein. Oui, alors pas d'informations hein, sur son avenir. Effectivement, c'est peut-être l'heure de la retraite pour un homme qui a parfois été qualifié comme étant le plus puissant du monde dans son domaine, hein, celui du pétrole. On connaît en revanche le nom de son successeur qui s'appelle Khaled Al-Faleh, c'est un ancien ministre de la Santé. C'est surtout l'ancien dirigeant d'Aramco, la compagnie pétrolière géante.
Qui produit à elle seule un huitième de la production mondiale de pétrole.
Hein. Absolument, et ce nouveau ministre a tout de suite envoyé un message de continuité assurant que son pays continuerait à jouer son rôle de stabilisateur, ce qui veut dire que le changement de ministre, à ce stade, ne veut pas dire changement de politique.
En tout cas, ce qui est clair, c'est que le nouveau ministre, lui, est à la tête maintenant d'un super ministère qui regroupe l'énergie, l'industrie, les ressources minières. Ça s'intègre finalement dans cette volonté de vouloir rompre avec la dépendance au pétrole.
Absolument. Le ministère du pétrole est rebaptisé ministère de l'énergie, de l'industrie et des ressources minières. La volonté de diversifier, elle est évidente dans un pays dont 70% du budget est fourni par les ventes de pétrole. On peut parler de dépendance de l'Arabie saoudite au pétrole. On a parfois parlé d'addiction du royaume au pétrole. Le plan Vision à l'horizon 2030 récemment annoncé vise donc à diversifier l'économie, notamment avec ce fonds souverain de 2000 milliards de dollars qui devra permettre d'investir dans d'autres secteurs dans le monde entier, sur les marchés mondiaux, dans d'autres secteurs que celui des hydrocarbures. C'est un défi pour l'Arabie saoudite, qui, on le sait, est un pays extrêmement conservateur. Et ce qui est intéressant à observer dans ce pays, c'est justement la volonté d'évoluer dans ce contexte extrêmement conservateur et le remplacement d'un ministre qui a été en poste pendant 21 ans, à cet égard, est assez intéressant à observer.
Merci de cet éclairage, Nicolas Falaise. Oumar, on a répondu à toutes vos questions?
Oui, c'est parfait. Je vous remercie pour les explications.
Eh bien, merci à vous d'écouter RFI en pleine nuit dans le Maryland aux États-Unis. À bientôt, Nicolas Falaise.
À bientôt.
10h22 à Paris, vos questions. On va s'intéresser maintenant à la lutte contre le terrorisme numérique. Là, ici, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la RFI.
Vous nous appelez du nord de Cotonou. Vous êtes à Séoué exactement, au Bénin. On vous écoute.
Exactement, à 80 km au nord de Cotonou.
Allez-y.
Suite à une invitation du Conseil de sécurité de l'ONU, l'entreprise Microsoft va participer à un débat sur le terrorisme numérique. Quand on ne vraiment pas le terrorisme numérique, quel va être le rôle de Microsoft et à quoi peut aboutir ce débat One Global?
Alors, le réseau téléphone n'est pas très bon. Heureusement que j'avais sous les yeux ma petite fiche. Vous n'y êtes pour rien là, ici. C'est vrai que le Conseil de sécurité de l'ONU a invité, c'est une première, le géant de l'informatique Microsoft à participer à un débat sur l'antiterrorisme. Comment faire face au terrorisme numérique? Amaël Guiton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions de cybercriminalité, vous êtes par ailleurs journaliste au quotidien Libération. Ce débat a eu lieu hier au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est vrai que les Nations Unies s'inquiètent de plus en plus de l'utilisation de l'Internet pour diffuser l'extrémisme violent, mais plus qu'Internet, j'ai envie de dire, c'est surtout les réseaux sociaux qui sont devenus le principal vecteur du djihadisme.
Oui, c'est pour ça que je suis, moi, personnellement, un peu mal à l'aise, en fait, avec cette expression de terrorisme numérique. J'aurais plutôt tendance à parler d'usage du numérique par les mouvements terroristes, hein, tout simplement, parce que quand on dit terrorisme numérique, on peut aussi penser à du cyberterrorisme qui consisterait à s'attaquer à des infrastructures via les réseaux, par exemple. Là, on est vraiment, effectivement, dans la question de l'usage d'Internet et des réseaux sociaux, alors à des fins de propagande, à des fins éventuellement de recrutement, de communication, d'information, d'organisation. Donc on est vraiment dans les usages du numérique, qui sont d'ailleurs pas forcément spécifiques au mouvement terroriste, hein, puisque de fait, aujourd'hui, tout le monde utilise Internet, il faut évidemment pas l'oublier. Mais c'est vrai que cet usage, et notamment les usages aux fins de propagande, inquiète pas seulement les Nations Unies, ça inquiète à peu près tous les États.
Tous les États. Enfin, quand on dit les Nations Unies, ce sont les États, puisque ouais. les 193 pays membres des Nations Unies représentent le monde entier. C'est compliqué quand même de traquer les djihadistes sur les différentes plateformes numériques. On voit bien, il y a une volonté, notamment en France, de lutter contre ce fléau. Et en même temps, personne ne dispose véritablement les outils, ni même, par exemple, le responsable de Microsoft, qui a reconnu lui-même hier que les firmes Internet ne pouvaient pas elles seules régler le problème.
Ben, c'est un constat qu'il fait, qui est le même d'ailleurs que celui qu'ont pu faire Facebook ou Twitter ou Google. Effectivement, c'est un peu le problème du tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire qu'il y a sur les différents réseaux sociaux une veille qui peut être assez proactive hein, d'ailleurs, pour traquer ces comptes qui font... de la propagande. Le problème, c'est qu'on enferme un, il y en a d'autres qui renaissent derrière, évidemment, et très rapidement. Et l'autre problème, c'est comment est-ce qu'on balance ça avec le respect des libertés individuelles. On l'a vu notamment sur Twitter, c'est pour ça que c'est une question complexe, c'est que la frontière entre la propagande et la liberté d'expression est parfois beaucoup plus ténue que ce qu'on peut croire. Il y a eu des comptes d'experts du djihad qui ont été fermés par Twitter parce qu'ils avaient été pris pour des comptes de propagande. Donc on voit qu'effectivement c'est complexe, et ce que disait le directeur adjoint de Microsoft, et en ça il rejoint d'ailleurs les autres dirigeants des autres géants de la technologie, c'est qu'il faudrait peut-être beaucoup plus travailler sur la question des contre-discours et des contre-narrations, ce qui est aussi un constat qu'ont pu faire plusieurs think tanks qui effectivement ont réfléchi sur le sujet, en se rendant compte que vouloir fermer les comptes ou vouloir lutter par effectivement uniquement le retrait des vidéos, des contenus, etc., en fait ça ne suffit pas. Bon, évidemment, là où c'est complexe aussi, c'est que quand on dit contre-discours et contre-narration, il faut évidemment faire attention à ce qu'on met derrière, et que c'est, là non plus c'est pas simple. Il y a eu des expériences en France avec le fameux compte Stop Djihadisme. Le problème, c'est qu'à partir du moment où c'est porté par des autorités et par des institutions, c'est souvent beaucoup moins efficace que ce qui peut être porté par la société civile. Et donc, évidemment, c'est pour ça que tout le monde réfléchit à la bonne manière de
Effectivement.
Faire.
Effectivement. Et on comprend bien, en vous écoutant, Amaël Guiton, que tout cela est un vaste chantier, que tout le monde va devoir travailler ensemble, aussi bien les entreprises liées à l'Internet que la société civile, les ONG, mais aussi les États. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de cybercriminalité. Bonjour Alejandro Valente.
Bonjour.
El Jefe, le chef du service des sports. Merci d'être avec nous. On vous a demandé de venir ce matin. On a reçu des questions concernant Michel Platini. Vu le temps, on va en prendre qu'une. Jean, bonjour.
Oui, bonjour Juan. Et je profite de votre micro pour saluer toutes les petites mains qui travaillent dans l'ombre pour que cette émission ait du succès.
Merci pour eux. Alors, et ce ne sont pas des petites mains, ce sont des grandes mains. Arès, Benoît, Eleonora, bref, toute l'équipe qui est là, Jessica également, qui nous permettent chaque matin de communiquer, de dialoguer ensemble. Quelles sont vos questions sur Platini?
Alors, je venais, suite au verdict du tribunal arbitral du sport, Michel Platini, à la tête de l'UEFA, démissionnera officiellement le 18 mai prochain. Réglementairement, qui est-ce qui le remplacera? Pourquoi le tribunal arbitral du sport a été clément cette fois-ci?
Oui.
Et quel est l'avenir de Michel Platini?
Alors, pour être honnête, en 45 secondes, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, Alejandro Valente, mais déjà, c'est intéressant de savoir, de répondre à la deuxième question, en fait. Le tribunal arbitral du sport, qui est plus clément que la FIFA. Platini a été condamné donc à 4 ans au lieu de 6 ans d'interdiction d'activité liée au sport, au
oui,
foot.
Oui, mais ce n'est pas vraiment de la clémence, à mon avis, puisque dans ses conclusions, disons, le tribunal arbitral du sport reprend point par point les conclusions de la commission d'éthique de la FIFA. Donc en fait, il a simplement estimé que les fautes qui était reproché à Michel Platini était grave et méritait une sanction sévère, mais que 4 ans, c'est-à-dire la durée d'un mandat présidentiel à la FIFA, était une peine suffisante. De toute façon, pour Platini, ça ne changeait pas vraiment grand-chose.
Suffisante pour mettre un terme à la carrière de Michel Platini dans le milieu du football.
Absolument, c'est clair. Et aujourd'hui, que ce soit 4 ans ou 6 ans, ça... Ça change pas vraiment les choses pour Michel Platini. Il attendait quelque chose de très différent.
Alors, restez avec nous, Alejandro Valente. Jean, surtout, ne raccrochez pas. On se retrouve dans 10 minutes. Priorité.